Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nelly.
Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nelly.
Un feuilleton radiophonique en 10 épisodes.
Troisième épisode.
La petite troupe avait débarqué à l'aéroport de Dakar au cœur de l'été 1960, alors que les colonies françaises d'Afrique noire s'apprêtaient à célébrer leur indépendance. Quatre jeunes gens qui posaient le pied en Afrique pour la première fois, enthousiastes et pleins d'appréhension. Quelques pas de rumba sur le tarmac brûlant et ils s'étaient mis à chanter à pleine voix « Indépendance, cha-cha ».
Dario Moreno, ça me détend, tu peux pas savoir. J'en étais où ? Ah oui, je suis en mission, tu te débrouilles. Tu racontes ce que tu veux au ministre. Il commence à me les briser à toujours m'appeler au sujet de son fils. Tu lui chantes la berceuse. J'ai des chars qui font des allers-retours à la frontière, on dirait le jeu des sauterelles. Tu te souviens ? Les gardes frontières jouaient à se balancer des sauterelles d'un côté de la frontière à l'autre, tellement ils s'emmerdaient. On a pris les paris et raflé la mise. Oui, tu as raflé la mise, d'accord. Bon, pigé ? Tu dis au ministre que je suis sur le terrain, seul face aux chars sénégalais, tu brodes. Parce que Dieu le Père ne s'inquiète que de son fiston. Et moi, le fiston, j'aimerais le clouer en personne sur la croix, ce salopard qui m'a filé entre les pinces. Je me sens un peu seul face à la barbarie communiste qui veut détruire le monde libre et s'emparer de l'Afrique. Mais non, tu lui dis pas ça, abruti. Quoi ? Préparer la visite de Malraux ? Et puis quoi encore ? Tu veux pas que je lui écrive son discours façon crise de palu ? Putain, après le fils à papa, je vais me farcir Malraux. On me prend vraiment pour un capitaine de croisière. Oui, toute la discographie de Moreno. J'ai envie de tuer Ahmed, et la musique, ça me calme. Arrête tes géraniades, Ahmed. Séquestré, ligoté, tu te fous de moi ? T'as été berné par des gamins. Que je comprenne bien. Tu pissais, ils t'ont ligoté, foutu dans le coffre, et le mieux que tu as trouvé à faire, c'est de te tirer et te les laisser se barrer avec la camionnette ? T'as de la merde dans les oreilles ? T'as rien écouté. T'as de la merde dans la tête alors. T'as rien compris à ta mission. Une émeute ? De quelle émeute tu me parles ? Écoute-moi bien. Tu les retrouves, tu me les ramènes, et ensuite je vais te tuer.
Je suis la seule à ne pas pleurer. Les fonces menacent de nous lyncher, et mon corps et mon âme sont étrangers aux larmes. Je suis désormais infirme au bonheur comme au malheur. Vidé et solitaire au milieu des cris.
Ixo était à genoux, la bouche en sang, après avoir reçu un jet de pierre. Dans la foule, chacun avait connu un aïeul ou un parent égorgé, torturé ou décapité par les soldats de la colonne Boulet-Chanoine. Le griot s'avança vers Ixo et lui lança un coup de bâton qu'il atteignit sur le côté de la tête. Ixo pleurait de colère et de douleur. Julien était pétrifié par cette soudaine montée de violence. Il restait planté près de l'estrade, les mains en l'air, comme s'il voulait les accrocher au ciel. Il cherchait en vain Patrice du regard, il ne pouvait pas bouger. Aboubacar, l'instituteur, se tenait debout face à la foule et tentait de raisonner les meneurs.
Pas du tout. Il s'est lui aussi retrouvé sous les coups de la foule. C'est Suzanne qui a fait reculer ces fous furieux, toute seule.
Suzanne l'Amazone. Allons, Ixo, j'écris pas des livres à l'eau de rose. Tu peux bien continuer à taper, s'il te plaît. Aboubacar se mit à courir vers la camionnette tandis que Suzanne relevait Ixo par le col de chemise et bousculait le vieux griot. Le coup de poing et de bâton pleuvait sur son crâne, mais le jeune Martiniquais semblait paralysé. Un nouveau coup s'abattit sur son crâne, puis un autre. Ixo vacilla, mais resta debout, les yeux levés vers ce ciel africain qui avait décidé de l'abandonner à la fureur des villageois. Il n'y avait plus qu'une foule ivre du malheur de tout un continent. Et à cet instant, rien d'autre que le lynchage des jeunes blancs n'aurait pu effacer leur douleur et les cauchemars qui les hantaient chaque nuit depuis des générations. Aboubacar démarra la camionnette, tandis que les pierres martelaient la carrosserie et faisaient exploser les vitres. Patrice, recroquevillé sur la banquette arrière où il s'était réfugié, releva la tête. L'instituteur accéléra dans un tourbillon de poussière. Il hurlait au volant, arc-bouté sur le klaxon. Il fonça à travers la foule hurlante, semant la panique parmi les villageois. Patrice ouvrit le haillon arrière et, dans une manœuvre désespérée, aida ses amis à grimper à bord. Suzanne tenait encore fermement Ixo par le col de chemise. Il avait le corps couvert de poussière, de sang et de crachats. Julien grimpa à son tour, pieds en avant, les habits lacérés.
Ahmed, où est passé Ahmed ?
Les yeux rougis de larmes, Suzanne désigna la silhouette du chauffeur à l'écart de la foule en furie. On aurait juré qu'il souriait et leur faisait signe de la main.
Le paysage a changé. La route nous éloigne du pays fonce et la nature s'assèche comme mon corps. Je frissonne. Un peu de peur et beaucoup de désespoir. La terre rougit, s'assombrit. La fin du jour est magnifique. On dirait que la terre entière va disparaître avec le soleil à l'horizon. La camionnette repose. Une durite percée. Les garçons s'affairent en silence et leur mécanique intérieure est encore plus mal en point que celle de notre véhicule. Je ne connais pas l'Afrique. Personne ne la connaît. Nous jouons les braves, les dompteurs. Personne à l'arrivée pour oser dire qu'il se sent étranger, comme si les livres nous avaient appris quelque chose. Des bébés blancs, européens. Et l'Afrique nous rote à la figure à notre premier biberon. Patrice reproche vivement à Julien d'avoir saccagé le spectacle avec ses idées de mise en scène à la noix, alors qu'il aurait fallu s'en tenir à un discours dépassionné et sobre. Mais tout le monde sait qu'il n'en est rien. Fiasco total et peur totale, comme le résume Xavier Omar au milieu du grand désert africain.
Voilà. Je parle de millions d'hommes à qui l'on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Cette explosion de violence est nécessaire. Fanon l'a écrit. Elle a eu lieu aujourd'hui, ni trop tôt, ni trop tard, mais elle nous a cramés jusqu'au poil du cul, tous. Moi compris.
Mais c'est nous les esclaves, nom de Dieu. Pardon Xavier Omar, mais c'est nous qui avons les fers aux pieds. Moi aussi je l'ai lu ton Fanon, tu me l'as fait réciter par cœur, tu m'as emmerdé avec ton Fanon nuit et jour à Bruxelles. À Paris, non, c'est vrai, au chiottes, dans l'avion, Fanon. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants. Je suis plus qu'impuissant, je suis l'eunuque de la République, le châtré de la Révolution.
Bon Dieu, il y a personne pour me dire que j'ai encore un petit peu de noir sur la figure, ou si tout a été nettoyé, effacé.
Il avait pas tort, le colonel, hein, en se moquant de nos pulls cachemire. Je crois qu'on a apporté des mâles remplis de conneries. Pire que Christophe Colomb et vous les chanoines réunis.
Et votre spectacle n'est pas une si mauvaise idée. J'aime ça, moi, le théâtre. Mais il faut que ce soit quand même plus incarné.
Incarné? Dis donc, je dois le prendre comment, Boubacar?
Attends. Finis les discours qui sonnent comme un manuel d'histoire. Nos ancêtres, les Gaulois... Votre Afrique n'est plus l'Afrique fantôme des années 30. Vos livres sont obsolètes. Il faut les réécrire.
Bon, j'ai pas été assez humilié comme ça, hein ? Tu veux que je marche sur les genoux en me fouettant le dos ?
Génial. Alors, c'est l'heure de la repentance banania. Le feu crépite, il y a des animaux sauvages prêts à nous bouffer. Comme si les coups qu'on avait pris sur la tête ne suffisaient pas, j'ai des fourmis qui me piquent le cul. Et là, il y a Monsieur Patrice qui va nous chialer dans les chaumières parce que le destin de l'Afrique n'est pas blanc.
Non, c'est pas... Bon, d'accord.
Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs. Pour les anciens missionnaires non plus. Pour nous, celui qui adore les nègres, croyez-moi, est aussi malade que celui qui les exècre.
Amen.
Non, il faut regarder les choses en face. Il est trop tard pour rebrousser chemin. Ahmed va rentrer à Dakar et lancer la cavalerie à vos trousses. Alors écoutez-moi. Puisque je vous dis, moi aussi, que j'aime les feux de la rampe.
On n'en sait rien. Ahmed le collabo s'est peut-être fait lyncher.
Ouais, merde.
Écoutez, votre spectacle manque de mordant et d'à-propos. Vous n'êtes pas au bouffe parisien. Griots, sorciers, indépendantistes et rebelles révolutionnaires. Ici, les lois du spectacle ne sont pas les mêmes. Je vais vous présenter à mes frères, mes amis acteurs, des vrais, et vous permettre d'assister au plus grand théâtre du monde, le plus sauvage et le plus fou aussi, le plus juste. Nous sommes les acteurs de l'Afrique, la vraie. Et puis remettez-moi du bois dans ce feu parce que moi aussi, je commence à me faire bouffer le fondement par les fourmis.
Les yeux d'Aboubacar brillent dans la nuit comme s'ils captaient toute la lueur des flammes. Au cœur de la nuit, il s'enfonce à travers les broussailles en nous demandant de l'attendre. Personne ne dort. Nous découvrons le ciel et ses étoiles, comptons nos rêves perdus. Julien s'inquiète de mon silence et de mon humeur sombre. Il veut dormir près de moi, oubliant déjà ses bonnes résolutions. Je le repousse comme je repousse leurs vaines discussions d'enfants gâtés. Le gouverneur surgit, avec un poulet sous un bras et une bouteille dans l'autre. Je hurle, mais aucun son ne sort de ma bouche. C'est lui, je le reconnais. Il marche d'un pas exagéré, jambes jetées en avant comme à la parade. Des hommes sortent du couvert des arbres à sa suite, avec des costumes pleins de plumes, de fanfreluches, avec sabres et fusils de pacotille, casques coloniaux et épaulettes. Le caporal, le conducteur de locomotive, la femme du gouverneur, je les connais. Ce sont les membres de la secte Aoka, les maîtres fous. Je les ai vus sur l'écran au Musée de l'Homme à Paris dans le film de Jean Rouch. Ces hommes célèbrent les personnages emblématiques de la domination coloniale. Ils sont possédés par l'esprit du personnage qu'ils incarnent. Je fais un signe de croix. C'est ridicule. Je ne sais pas quoi faire de ma joie ni de ma stupeur. Le gouverneur me confie son poulet, solennellement. Un geste martial qui l'accompagne d'un clin d'œil malicieux. Je le reconnais, c'est Aboubacar. Il brandit sa bouteille, du gin, et m'en asperge la poitrine sous les sifflets de sa troupe. Puis il arrose les arbres alentour. Je le salue, et il désigne la camionnette. C'est parfait, elle sera le nouveau palais du gouverneur. Nouveau clin d'œil, c'est un très beau palais. Et il demande au caporal de garde de l'inspecter de ce pas. Aboubacar s'agite. Sa voix s'altère, ses muscles se crispent. La transe débute par les orteils, puis remonte le long des jambes. Parcourt tout le corps, jusqu'à la tête. Sa tête se vrille, tourne dans tous les sens. La respiration devient haletante, la bave écume. Mes compagnons sont tétanisés. Julien fait mine de venir me prêter main forte, mais Xavier Omar le retient. Des fusils de bois sont brandis, des coups de cravache sifflent dans l'air. Ce sont des courroies de camions qui ne tardent pas à fouetter l'un ou l'autre dos des Aoka qui bavent et tremblent. Le caporal de garde allume une torche et met le feu à sa chemise en hurlant. La femme du gouverneur, avec ses jambes poilues, distribue des écharpes rouges au conducteur de locomotive et au capitaine de la marche rouge qui semble perdre tout contrôle. Je serre le poulet. Voilà les génies de la force. Je voudrais prévenir mes amis que la cérémonie peut dégénérer, qu'ils voudront peut-être égorger un chien devant nous et nous inviter à boire son sang avec eux. Mais ce qui sort de ma bouche n'est pas du français, c'est un langage incompréhensible. Aboubacar revient vers moi de sa démarche saccadée, fâchée. Le palais n'est pas en ordre de marche. Les couloirs et les chambres ne sont pas propres et la cuisine sent mauvais. Il faut se mettre au travail, convoquer une round table. Il insulte tout le monde, moi y compris, puis me noue une écharpe rouge autour du cou et pose ses mains sur mes seins et commence à chanter à tue-tête. Je sens mes orteils frissonner, puis mes pieds. Une sorte de convulsion qui me prend. Je ris et lâche le poulet. Le secrétaire général le saisit au vol et lui tord le cou, puis le mord. Il a du sang plein la bouche. « Pas de chien », me dit Aboubacar, l'air contrit. « Pas de chien ». Il me regarde droit dans les yeux et me chuchote « Tu m'entends, mais tu n'es pas encore arrivé, pas encore !» Je crois voir les cheveux de Patrice prendre feu. Ou peut-être est-ce Xavier Omar. Julien est sur le dos de la locomotive qui fait des allers et retours incessants en sifflant et soufflant de la vapeur. Le caporal de garde glisse une patte de poulet dans mes cheveux en riant. Les sabres caressent mes bras, mes jambes et mes joues. Scarification. Tout se mêle, sang, bave et boue. On s'épingle des médailles militaires sur les torses nus. On se cravache, on se crache dessus, on se pisse dessus. Je ne suis pas en reste. Je ne vois plus mes amis. Je sens que mes yeux se révulsent. Je sens tout, comme à la puissance 1000. Je sais que je me déshabille, que j'arrache mon chemisier et ôte mon pantalon, ma culotte. Plus aucune inhibition. Et pourtant, je suis consciente de tout. Même du goût épouvantable du djinn d'Aboubacar qui s'écoule de ma bouche et descend entre mes seins jusqu'à mon sexe.
On n'a pas que ça à faire. On a loué des taxis pour la journée, pas question de payer le tarif de nuit.
On a loué des taxis pour la journée.
Sinon on va se faire engueuler par nos épouses.
Pas question de payer le tarif de nuit, sinon on va se faire engueuler par nos épouses. Dit Aboubacar dans un immense éclat de rire. Ils s'étaient tous embrassés avec effusion, blancs et acteurs, et avaient fini par rire ensemble pour oublier le chaos des maîtres fous qui avaient précédé. Et Aoukas avait ensuite disparu à la nuit tombante. Des araignées apparurent par milliers, annonçant l'orage. Suzanne manquait à l'appel. Apeurés, les trois amis coururent se mettre à l'abri dans la camionnette, vitres relevées, issues calfeutrées avec des vêtements, tout pour empêcher les araignées d'entrer dans le véhicule.
Jamais vu des araignées pareilles. C'était monstrueux. Vraiment. Je ne sais pas comment on a fait pour ne pas remarquer plus tôt l'absence de Suzanne. On était sonnés, assommés. On a tous vomi. Je te dis pas la nuit et la gueule de bois au petit matin. L'orage a duré des heures. On ne pouvait pas bouger. Même une fois les araignées disparues, impossible de démarrer. Et pour aller où? Ça a chialé, on s'est battu, on a bu, on a chialé encore.
C'est moi, l'écrivain. Je peux reprendre? Ixo, Julien et Patrice attendaient l'aube autour du feu. Ixo ressassait sa douleur. Il avait vu ses frères africains se livrer à un rituel primitif et violent qui sacralisait la colonisation. Sa foi devant l'Afrique nouvelle vacillait. « Leur violence n'est que le reflet de notre civilisation », répondit Julien. Et Ixo lui lança une bouteille vide qu'il évita de justesse. Mes trois amis parlèrent de leurs échecs successifs. Le spectacle pédagogique, les pays hostiles, une expédition stoppée par quelques araignées fuyant l'orage, la fuite d'Ahmed, mort ou déjà à leur trousse, avec le colonel R et Suzanne disparue. L'expédition était à l'eau. Ah. On fait une pause, Ixo, j'ai une faim de loup. J'ai plus rien à boire. Arrête de taper, je te dis.
Je sillonne les villages en taxi avec les Aouka. Ils disent adieu à leur famille, sans un mot. Des baisers tendres et pas un pleur d'enfant. Nous partons pour un grand voyage. Je me sens libre pour la première fois de ma vie. Nous revenons à la clairière. Toute la troupe est derrière moi, en civil, avec armes et bagages. Je fais part de ma décision à Julien. C'est à mon tour de dire adieu. Je pars avec les Aouka. Nous nous rendons à Dankori, loin à l'est, là où sont enterrés Voulet et Chanoine, afin d'exorciser les démons et célébrer la nouvelle Afrique. Nous voulons créer un nouveau rite, époustouflant. C'est une expérience ethnographique sans précédent. La disparition d'un rituel, la naissance d'un autre. J'en serai le témoin et l'actrice, n'en déplaise à mes professeurs, n'en déplaise à Julien, n'en déplaise à Xavier Omar, sans doute le plus choqué par les maîtres fous. Aboubacar console Patrice. Aboubakar connaît le secret de Voulet et Chanoine. Il ne souffrait pas de soudanite aiguë, contrairement à ce qu'affirment les militaires. Ils étaient atteints par la syphilis, qui, à son stade le plus avancé, provoque délire et violence. Plus de soudanite aiguë. De toutes les manières, le Soudan n'existe plus, c'est le Mali maintenant. Et personne n'a envie de mourir de malinite aiguë. Aboubakar invite sa troupe à charger les bagages dans la camionnette. Il fait le tour du véhicule, s'arrête devant la calandre, la main posée sur le bouchon du radiateur. Les Aouka viennent le rejoindre et prennent la pause avant de se mettre à chanter.
Je te baptise au nom du général de la guerre des Gaules et du dieu des chauffards éternels, Taxi Maboul.
Que ce vin de palme t'apporte autant d'ivresse routière que de fièvre sexuelle.
Oui.
Merci.
Chez nous, un taxi Maboul est une brouette à bord de laquelle on transporte tous les objets encombrants. Pain de glace, meubles ou cercueils des défunts, il n'existe aucun code de la route pour les taxis Maboul. C'est le premier arrivé qui gagne, qu'importe les dangers et les accidents.
Suzanne, t'es blanche, tu peux pas les comprendre.
Arrête, j'ai pris ma décision.
Non mais tu nous plantes là alors. Mais à quoi tu joues?
Mon frère, tu es noir, mais la misère est plus noire que toi. Il n'y a pas de mission nègre, pas plus que de fardeau blanc.
Hey, c'est du fanon tout craché, ça.
Je ne veux qu'une chose, que cesse l'asservissement de l'homme par l'homme. Le nègre n'est pas plus que le blanc.
Oh diable, fanon. C'est de nous qu'il s'agit. Suzanne, Patrice, Julien, moi. Notre Afrique. L'Afrique moderne qui n'a que faire de votre obscurantisme et de vos rites archaïques. Levez-vous, nom de Dieu. Et devant le colonel, vous jouerez aussi avec de la bave et de la pisse? Bande de sauvages. Patrice, Julien, dites quelque chose.
Oui, alors moi j'ai quelque chose à dire, parce que c'est très bien tout ça. Hein, mais j'aimerais faire remarquer que cette camionnette est la propriété de l'État français. D'accord? Elle ne nous appartient pas. Ni à vous, ni à nous. Bon. Et d'ailleurs, on fait comment si vous vous barrez avec notre camionnette? Hein, on fait quoi? On traverse l'Afrique à pied? Ah oui, bah non, mais c'est pas drôle ça! Bah oui, on va. On... Bon, d'accord, très bien. Très bien,
on va ouvrir. C'est sérieuse quand même. Oui,
Tu vas marcher, Julien!
C'était Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nili. Troisième épisode.
Avec Jean-Paul Borde,
Élodie Hubert,
Alain Fromager,
Jean-Christophe Folli,
André Zéjean Mafan,
Benjamin Belcourt,
Jonathan Cohen,
Jean Bédiébé,
Tadié Tuéné,
Alain Etnard,
Manon Leroy,
Paulin Faudouop. Musique et chant,
André Zéjean Mafan,
Cora et flûte,
Simon Winze,
guitare et percussion,
Séni Samb,
bruitage,
Bertrand Amiel,
conseillère littéraire,
Emmanuel Chevrière,
équipe de réalisation,
Philippe Bredin,
Sébastien Labarre,
Louise Loubrieux,
Jean-Mathieu Zand.
Indépendance, toujours oui, équipe Panza, tcha-tcha, tout va qui dit, au table ronde, tcha-tcha, pas gagné, oh, on y panda, tcha-tcha, toujours oui, indépendance, tcha-tcha, pas gagné, oh, indépendance, tcha-tcha, pas gagné, oh. Indépendance, 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 pas gagné. Oh.
Et vraiment, c'est bien comme ça.